J'ai une petite pub à vous présenter. Je voudrais savoir quel effet elle vous fait. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Régime booste ta foi, comment déplacer les montagnes en 10 jours ? C'est un peu court, hein, 10 jours. Ça semble un peu rapide. Vous avez déjà vu ce genre de pub, non ? Non ? Il n'y a pas des gens qui vous proposent des livres, des parcours de formation, des... Hein ? Vous avez plus vu ça sur les régimes, j'en conviens, je me suis largement inspiré de ce genre de pub. Quel est le problème pour ce genre de proposition ? Pardon ? L'effet yo-yo. On continue le parallèle avec les régimes. On a l'impression d'être tout seul à faire un effort, ok. C'est-à-dire ? C'est pas toujours simple de faire un régime. Ouais, voilà, bravo, ouais, ça a l'air de dépendre que de nous.
Plutôt que de l'extérieur, et pas assez de ce qu'il y a à l'intérieur.
De l'extérieur, l'extérieur, ce serait quoi ?
Bah, c'est ça, c'est ce qu'ils proposent.
Ce serait le régime, voilà, un programme, quoi. Comme si un programme pouvait produire un résultat en nous, ouais, d'accord. Pardon ? Progressivement augmenter sa foi, d'accord. Faut être assidu, oui, c'est vrai. Alors le défi, c'est pas d'aller vite avec le Seigneur pour grandir dans la foi. Le défi, c'est pas d'aller vite. C'est Dieu, il veut pas faire grandir la foi pour faire grandir la foi. C'est pas une fin en soi, c'est pas une compétition, c'est pas un sujet de gloire, c'est pas un trophée à acquérir. Mais en fait, c'est pas d'aller vite dans une performance, mais c'est de produire du bon fruit. Et d'ailleurs, la Bible dit un fruit qui demeure, un fruit durable, bon et vous savez, moi, ça me fait penser aux tomates. Hein, les tomates qu'on fait gonfler, rougir en accéléré. Vous savez, les systèmes d'agriculture modernes, c'est super cool. Hein. Elles sont belles, ces tomates, dans le... Hein, puis c'est vide dedans, ça apporte quasiment rien. Aujourd'hui, on s'en rend compte. On s'en détourne. On aimerait avoir d'autres tomates, mais le problème, c'est que toutes les sociétés... Enfin, la plupart des engins de production de tomates a été construit pour aller vite et faire des trucs beaux à l'œil. Et dedans... Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, pour moi, ça, c'est typiquement notre travers de notre société d'aujourd'hui. On va aller vite et faire du beau. On a oublié que ce qui compte, c'est d'être bon, c'est de faire des bonnes choses. Et le Seigneur, dans la parole, il met en avant ce bon fruit qu'il nous appelle à porter. Et nous sommes tentés, nous aussi, ne soyons pas trop orgueilleux, trop sûrs de nous, nous sommes tentés, nous sommes baignés dans ce climat de vitesse, de compétition, de faire au plus facile aussi. Parce que c'est quand même ça qui motive les industriels, c'est de faire de l'argent facile. Et nous sommes, en tant que croyants, baignés dans cette atmosphère de facilité, de recherche de la facilité. Les pubs pour les régimes ou pour d'autres choses, les musculatures rapides pour les hommes, ou je ne sais pas, moi, la richesse en très peu de temps pour les cupides, ou les gens qui ont soif d'acquérir des biens, toutes ces propositions sont des propositions de facilité. Et le Seigneur, il n'est pas du genre à nous proposer la facilité. Pour l'apparence, oui. Alors, je reprends mon petit slogan. Alors, quel est le bon programme de croissance ? Bon, évidemment, ce n'est pas celui-là, d'accord ? Hein, ce n'est pas celui de vite fait, mal fait. C'est plutôt, je vais reprendre le parallèle de la nourriture, n'est-ce pas ? Quand on prend du recul et qu'on réfléchit au long terme, on se rend bien compte que si on se nourrit mal, notre corps va mal. Si on se nourrit bien, notre corps va bien. Alors quand le corps a été mal nourri tout un temps et qu'il a développé des pathologies, des souffrances, des déséquilibres, alors on fait un régime pour équilibrer. Puis après, on se redit, ça y est, je vais de nouveau bien, donc je peux de nouveau me lâcher. Vous savez, ce principe du yo-yo qui a été cité. Mais le fond du problème, c'est quoi ? On le sait tous, quand on a un peu de bon sens et quand on cherche un peu à réfléchir long terme, c'est qu'en fait, il faut adopter un bon régime alimentaire équilibré, qui convienne aux besoins de notre corps. Et dans la foi, spirituellement, le principe est le même. Si vous Courez les nouveautés, les nouveaux livres, les nouvelles séminaires, le nouveau ministère, et que vous êtes que dans la réaction à des effets de séduction, d'envie. Oh, ça me plaît ce qu'il dit. Oh, ça me plaît ce qu'il écrit. Oh, ça me plaît ce qu'il a vécu. Ben, vous êtes dans des effets de mode et vous construisez pas une vie de foi équilibrée, durable, solide. Et c'est notre défi de nous laisser interpeller par le Seigneur, par des choses nouvelles, oui, mais ne pas vivre de cet effet d'annonce, de cet effet de choses qui attirent, qui donnent envie, qui fait plaisir. Alors vous voyez, j'ai fait un autre parallèle, là on parlait de la nourriture, mais nous, Dieu nous a fait dans notre nature humaine pour grandir et porter du fruit, faire des enfants, d'accord ? Mais on peut très bien vieillir sans grandir. Vous avez tous des gens autour de vous, vous dites, celui-là c'est un gamin, quoi. Il n'a pas grandi, quoi. Il est capricieux, il n'est pas patient. Non, c'est vrai. Hein ? Donc, ce n'est pas parce qu'on vieillit, ce n'est pas parce qu'on a grandi en taille qu'on a grandi vraiment. Et dans la foi, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'on a 30 ans de vie chrétienne qu'on est forcément mature. Et de la même manière, ce n'est pas parce qu'on grandit qu'on porte du fruit. On peut être mature, avoir des réflexions sages, etc., être sage dans nos comportements, être mature, et ne pas porter de fruits. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on passe de vieillir sans grandir à vieillir en étant plus sage ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas juste vieux, mais qu'on est mature ? Ah, je vous pose des colles ce matin. Mais il y a plusieurs choses, je suis bien d'accord. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un, au lieu de rester enfant, devient mature ?
En lisant la parole.
Pardon ? D'accord, là on est dans le spirituel, c'est juste, en lisant la parole assidûment. Et si on devait donner un thème ou un mot général à cet exemple concret, en se nourrissant, d'accord. Et cette nourriture, qu'est-ce qu'elle nous apporte? De la connaissance, ok, pardon. La vie aux communautés, c'est un moyen pour acquérir quoi? Voilà, la sagesse, la patience, très bien. Un enfant à qui vous n'apprenez rien et qui n'apprend rien, parce qu'on peut très bien dire les choses à apprendre et la personne ne veut pas les retenir, eh bien, elle ne progresse pas. Vous faites quelque chose, ça ne marche pas. Vous ne recherchez pas de conseils, vous ne recherchez pas une critique extérieure, vous ne recherchez pas à vous remettre en cause, vous continuez comme avant, ben vous restez aussi ignorant, incapable qu'avant. Donc, ce qui change entre une personne qui a vieilli sans grandir en sagesse et une personne qui a vieilli en grandissant en sagesse, c'est que la personne qui a grandi en sagesse a accepté d'apprendre, de se corriger, de chercher à savoir ce qu'elle ne savait pas. Vous êtes d'accord avec ça ? Et maintenant, une personne sage portant du fruit par rapport à une personne sage ne portant pas de fruit, qu'est-ce qui fait la différence ? Donc, première chose, c'est le savoir, acquérir de la connaissance, de la sagesse. La deuxième chose, qu'est-ce qui fait qu'on porte du fruit ? La mise en pratique, d'accord ? Tu disais ? Les attitudes envers les autres. Oui, par exemple, la bienveillance, d'accord ? Donc, par rapport à la connaissance, qu'est-ce qui fait la différence ? C'est l'exercice, c'est l'action, c'est le faire. Dieu veut nous rendre capables de faire des choses justes, de faire des bonnes choses. Et ça s'appuie sur le fait de connaître Jésus, de connaître sa parole et d'agir selon ce qu'il dit. Ça a été très bien ce qui a été dit. Les plusieurs paroles qui étaient données ce matin étaient dans le sens que le Saint-Esprit veut nous conduire. Bien sûr, nous avons des empêchements et il faut se battre contre. Et Dieu a dit qu'il nous délivrerait, oui. Mais nous devons continuellement grandir. Le Seigneur nous a appelés à grandir et il veut nous faire grandir. Dieu veut nous rendre capables de faire ce qui est juste. Il veut nous rendre semblables à Jésus. Savez-vous cela ? Pensez-vous qu'il peut le faire ou pas ? Vous le croyez vraiment ? Comme Jésus, hein ? C'est quelque part dans la Bible, ça, ou c'est juste une pensée comme ça ? Dans la Bible, c'est Dieu qui le dit. Vous savez ça ? On va lire le passage, Romains 8, 28, 29. « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » Il s'agit de vous. En effet, et de moi bien sûr, en effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs, bien sûr. Dieu veut, Dieu a prévu, c'est son plan. Et si vous ne le croyez pas, si vous en doutez, vous empêchez Dieu de l'accomplir. La base de ce que je vais vous dire ce matin, croyez ce que Dieu a prévu. Croyez le plan de Dieu. Ne vous laissez pas tenter par des gens qui vous disent « je vais produire ça en toi ». J'ai une solution, je vais te montrer la recette. La seule recette, le seul programme, c'est faire ce que Jésus dit de faire. Faire ce que le Seigneur nous dit de faire. Apprendre à faire ce qu'il nous propose. Et bien sûr, ça passe par laisser tomber des choses qu'il nous dit comme étant mauvaises, comme étant nous rend stériles, nous rend malades. Alors j'avais deux images ce matin dans la louange, il y en a une qui a été dite, c'était ce boulet. On a des boulets aux pieds. Si vous avez un enfant, il vient de naître et vous lui attachez des boulets aux pieds. Je vous donne un autre exemple, ça se faisait. Il les emmaillotait très fort. Et du coup, ils n'apprenaient pas à marcher. Vous avez remarqué ça. Aujourd'hui, ils marchent très tôt par rapport à jadis. Alors, on ne leur jette pas de pierre, ils ne savaient pas. Ils faisaient ça comme ça en pensant bien faire. Mais on voit bien aujourd'hui que le fait de les emmailloter et de les poser comme ça retardait l'apprentissage de la marche. N'est-ce pas ? Eh bien, dans notre vie de foi, il y a des choses que l'on fait qui empêchent la croissance. Et nous devons prier, Seigneur, apprends-moi à discerner ce qui empêche ma croissance dans la foi. Et l'autre exemple qui m'est venu dans la louange, c'est, je voyais cette image de, il pleut et la personne a besoin d'être arrosée de cette pluie comme une plante. Mais la personne ouvre un parapluie. Elle n'est donc pas arrosée. Si vous ne laissez pas Dieu vous arroser, si quand Dieu veut vous arroser, vous partez. Si quand il y a une occasion où Dieu veut vous bénir par une personne de passage, par une lecture d'un passage biblique, ben vous êtes à chaque fois vous vous laissez embarquer à faire autre chose. Et ben vous ouvrez votre parapluie et vous empêchez la pluie du ciel de vous arroser. Et ça empêche votre croissance. Alors je vous mets une petite image, comment Dieu nous rend comme Jésus, parce qu'on en est là, hein. Bien sûr on a déjà donné quelques éléments, et puis il y en a sûrement d'autres que je ne citerai pas ce matin, mais vous connaissez cette BD, Léonard, le disciple et le maître, vous connaissez ? Mes enfants ils aiment bien en ce moment, ils lisent ça, et ça les fait beaucoup rire, on rigole ensemble des fois. Mais alors c'est de l'humour absurde, on est d'accord, le disciple il veut faire des inventions comme son maître, c'est un peu Léonard de Vinci, il fait des inventions incroyables. Et le disciple, il fait toujours des inventions incroyables, mais pour des trucs vraiment vains, enfin des trucs un peu bêtes. Et puis le maître s'agace contre lui et lui court après. Le disciple veut toujours rester au lit le matin. Alors le maître, il invente des stratégies pour renverser son lit, pour lui faire prendre une douche automatique quand l'heure du réveil sonne, etc. Bref. Mais tout ça pour dire, c'est que notre maître à nous, il est bon. Il sait bien comment nous apprendre à bien faire. Donc, quand vous dites à Jésus « Apprends-moi », il vous entend et il le fait. Le défi pour nous, je crois, c'est de ne pas percevoir ce que Jésus fait pour nous comme étant quelque chose du diable ou quelque chose d'autre que Dieu. Et c'est un défi pour nous, de savoir reconnaître Jésus qui nous apprend quelque chose. Je vous donne deux passages bibliques, Proverbe 12:1. « Celui qui aime la connaissance désire être corrigé. » Qui ce matin recherche la correction ? Non, levez pas la main, c'est pas grave. Vous pouvez si vous voulez. Qui recherche sérieusement la correction ? Concrètement, comment on recherche la correction ? Concrètement. Non, pas en mettant la foi en pratique. Non. C'est pas comme ça qu'on cherche la correction. En lisant la parole, en s'humiliant. Concret, très humain, très terre à terre. En allant demander aux frères ce qu'ils en pensent. Vous faites quelque chose, vous venez de faire quelque chose, vous voulez recevoir une correction pour grandir, pour progresser. Si vous allez demander à ceux qui étaient là, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dis-moi sincèrement, j'ai envie de progresser. Qu'est-ce que je peux améliorer ? Si vous dites ça, ils vont parler. Par contre, si vous allez les voir, vous leur dire, c'était bien, hein ? Ben non, ils ne vont pas vous corriger. Ils vont dire, ouais, c'était bien. On est trop polis. On ne peut pas faire autrement, non ? On a du mal à être sincère parfois dans ce domaine, n'est-ce pas ? Mais celui qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. Alors bon, on a du mal à accepter ça, hein, d'être traité de sot. Hein. C'est lié à l'orgueil, c'est vrai, c'est vrai. Alors il y a un deuxième verset dans Hébreu, « Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Vraiment souvent le Seigneur m'a rappelé ça, il me dit, « Est-ce que tu me vois te corriger ? Est-ce que tu vois quand c'est moi qui te corrige ?» Ouais. Est-ce qu'on voit, est-ce que vous voyez Jésus vous corriger ? Je vous dis, la phrase chrétienne de base qui m'énerve de plus en plus, c'est « Je suis attaqué par le diable ». C'est une attaque du diable. Mais vous êtes en Christ, hein ? Le diable ne peut rien contre vous, vous le savez. Alors, je ne veux pas acheter complètement la phrase « Le diable m'attaque ». Mais quand même, réfléchissez-y. Quand est-ce que Dieu vous corrige ? C'est une bonne chose quand il vous corrige, si vous reconnaissez que c'est lui qui le fait. Ouais, c'est dans la Bible, tu as raison. Qui aime bien, châtie bien. Le Seigneur veut nous apprendre des choses. On a des choses à apprendre et c'est une bonne nouvelle. Ça peut être parfois difficile à entendre. Le Seigneur qui nous dit « Non, mais là, ce que tu fais, c'est pas bien, il faut arrêter ça. Ça te fait du mal, tu fais du mal aux autres. » Et c'est vrai, comme le disait Alain, il faut s'humilier. Oui, Seigneur, c'est vrai. J'ai réfléchi et tu as raison, Seigneur. Et dire ça, c'est important. Dire au Seigneur, dire à ceux qui sont autour de nous, et puis aussi demander à ceux qui sont autour de nous, « Aide-moi à grandir, je veux grandir, j'ai besoin de ton aide. » Le Seigneur vous a mis ensemble. Il nous a mis ensemble. Ce n'est pas un hasard. Vous n'êtes pas là par hasard. Le Seigneur vous a mis là, pour votre bien. Alors, je vais vous donner quatre choses qui sont dans la parole, qui sont là pour nous faire grandir. Alors, le premier, c'est dans Jacques. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. La prière faite avec foi. Vous avez besoin de sagesse, demandez-le à Dieu. Pour grandir, vous avez des besoins. Vous avez besoin de quelque chose, demandez à Dieu. Ne doutez pas. Il sait ce dont vous avez besoin. Dites, Seigneur, si c'est bon pour moi, je t'en prie, donne-le-moi. Bien sûr que la sagesse, il donnera toujours. Parfois, on doute de la demande. On se dit, est-ce que c'est bon pour moi ? Eh bien, laissez la part du doute à Dieu. Dites à Dieu, j'aurais besoin de ça, je crois que j'ai besoin de ça. Mais si c'est pas bon pour moi, ne me le donne pas. Mais vraiment, s'il te plaît, réponds à ma prière. Et prenez les réponses de Dieu comme bonnes, même si parfois elles ne sont pas celles que vous attendiez. La prière, c'était la première chose que j'aimerais vous dire. Persévérez dans la prière. Priez en croyant que Dieu vous entend. Parce que prier pour prier, parce qu'on vous avait dit qu'il fallait prier, ça ne sert à rien. La deuxième chose, c'est dans Jacques aussi. « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez pleins de force des hommes auxquels il ne manque rien. » Vous voyez, là, c'est vraiment écrit. Alors moi, je traduis ça par les épreuves, on pourrait dire les exercices. D'accord ? Des choses que Dieu met devant vous à surmonter, à résoudre, à faire. Vous avez un besoin, vous êtes malade, vous avez un problème. Ce sont des épreuves mises là par Dieu pour vous faire grandir. Il faut croire ça. Si vous ne croyez pas ça, votre vie, elle est dans la main de qui ? Votre vie, elle est dans la main de Dieu. Et parce qu'elle est dans la main de Dieu, Dieu utilise les circonstances pour vous faire grandir. Face aux circonstances négatives, baissez-vous les bras. Pensez-vous que vous êtes puni parce que vous avez fait une bêtise ? Peut-être, mais est-ce une fin ? Est-ce du coup la fin de tout ? Non, c'est une occasion de relever le défi et de dire, Seigneur, avec ton aide, je vais remporter cette épreuve, je vais surmonter cette épreuve. Parce que Dieu l'a dit, ça a été dit ce matin, il est avec vous tous les jours. Croyez-le. La première, c'était prier. La deuxième, c'est les épreuves qui sont là pour nous faire grandir. La troisième chose, dans 2 Timothée 3, 15 et 17, « Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu, Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Vous savez, la Bible, si on la lit par devoir, elle ne produit pas cet effet. Mais si on la lit avec foi, en se disant « ce que je lis dedans, c'est quelque chose que je peux et qu'il est bon que je mette en pratique, qui est là pour mon bien ». Bien sûr, ça passe parfois par un effort de méditation, de réflexion, de questionnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment le mettre en pratique? Et il faut demander au Saint-Esprit de vous aider à transposer la parole de Dieu dans votre vie. Mais cette source, la parole de Dieu, elle est la source que Dieu a donnée pour que vous puissiez faire ce qui est juste. Et très souvent, on entend « je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse ». Eh bien, quand vous êtes à cet endroit-là, allez chercher dans la parole. Parce que si Dieu ne vous a rien dit, c'est que ce que vous avez besoin de savoir est accessible, sans révélation du haut du ciel extraordinaire. Si Dieu a besoin de vous dire quelque chose de particulier à vous, par une parole, une révélation, une parole prophétique, il le fera. Ayez confiance. Mais vous, votre responsabilité, c'est de manger cette parole de Dieu. Là, on est vraiment dans « il pleut et vous mettez le parapluie si vous ne lisez pas la parole ». On est dans cet exemple-là. Donc, quand vous avez un besoin dans votre vie, une question, cherchez les versets qui ont rapport à cette question, à ce besoin. Cherchez dans la parole des réponses. Je vous dis des évidences ce matin, je crois. Mais elles sont bonnes, elles sont importantes. Et nous avons souvent négligé le bon sens. Souvent. Quand on prend une décision, si la parole dit l'inverse, on s'est trompé de route. Et le dernier des quatre points, c'est dans Éphésiens 4, 11 et 12, « C'est Jésus qui a fait don de certains comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes et d'autres comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps. » Dieu a donné des personnes, des hommes doués de certains on va dire dons, talents, certains angles de travail sur vous, et vous avez besoin d'être travaillé par ces hommes, d'être formé par ces hommes, ou femmes bien sûr, hein. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Dieu a donné des hommes et des femmes, bien sûr. Il a donné ces personnes pour que vous grandissiez de manière équilibrée. Si vous ne recherchez pas leur contact, si vous ne cherchez pas à être touché par eux, vous grandirez de manière déséquilibrée. Le plan de Dieu, ce n'est pas de vous sauver tout seul et de vous faire grandir tout seul, déconnecté de tout être vivant, non. Il vous met au sein d'une communauté pour votre bien. Alors, ce qu'il y a de particulier dans ce point-là, je voudrais vous mettre une image, c'est que c'est quand même vous qui vous mettez au contact de ces personnes. C'est vous qui décidez de vous faire arroser par eux ou pas. Si ces personnes vous imposent les choses, ce n'est pas juste. Ces hommes, c'est des moyens de Dieu. Vous recherchez en allant vers eux Dieu. Vous ne recherchez pas ces personnes en elles-mêmes. Mais c'est vous qui devez faire le tri. C'est marqué, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quand vous allez vers une personne envoyée par Dieu, certes, elle porte avec elle une part d'humanité, de défauts, de choses à mettre de côté. Quand je prêche, ne prenez pas tout ce que je dis. Vous devez examiner avec l'aide du Saint-Esprit et retenir ce qui est bon. Je fais des erreurs. On en fait tous. Mais on est confiant que le Seigneur, malgré ses erreurs, nous fait grandir. Et on se fait grâce et on se bénit. Et on a confiance que c'est Dieu qui fait tout ça. Donc je vous encourage à vous poser la question, est-ce que je me mets en contact de personnes qui exercent le don prophétique? Est-ce que je me mets en contact d'évangélistes? Est-ce que je me mets en contact de pasteurs? Est-ce que je me mets en contact d'enseignants? Est-ce que je vis au contact d'apôtres? Oui ou non? Est-ce que je recherche ça? Recherchez-les, recherchez ça. Dans cette église, on cherche à faire en sorte que nous exercions ces différents dons, ces différents ministères, au travers des responsables. Si nous n'avons pas nous-mêmes ces talents, nous faisons appel à des gens de l'extérieur. C'est pour votre bien, c'est pour notre bien. Et le Seigneur a prévu ça comme ça. Et nous devons être conséquents. S'il y a un ministère de passage et qu'il y a un séminaire et que vous ne venez pas, vous vous privez de cette grâce. Est-ce qu'il faut être là tout le temps? On ne peut pas toujours. On n'est pas sous une condamnation, ce n'est pas un devoir. Mais on fait ce qu'on peut et on demande aussi au Seigneur de nous faire faire des choix qui soient les bons pour nous. Et je vous encourage à laisser le Seigneur bouger vos agendas. Hein, ce n'est pas à vous de... Enfin, normalement, hein, si c'est Dieu qui conduit vos vies, ce n'est pas à vous de décider où vous allez quand, hein. Vous savez ça? En général, ce que Dieu prévoit, c'est bon. C'est des bonnes choses. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Et vous, vous êtes le champ qu'il cultive. Ou encore, vous êtes l'édifice qu'il construit. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée. J'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ça, c'est votre salut. C'est votre fondement solide. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une église, une étiquette, une dénomination. Ce n'est pas un ministère, un nom. Ce n'est pas une théologie. Ce n'est pas un parcours de développement personnel. Le fondement solide, votre salut, c'est Jésus. Mais le Seigneur Jésus vous conduit au sein d'une communauté. Il vous conduit dans sa parole. Il vous conduit dans la prière. N'est-ce pas? Et vous devez, lorsque vous êtes face à des épreuves, rechercher sa direction. Seigneur, comment je vais surmonter cette épreuve? Tu as dit que tu étais avec moi. J'ai besoin de toi. Soyez sûr, il est avec vous. Je vais faire un petit peu de pub pour l'accompagnement qui se fait dans l'église. Dans l'église, on a mis en place il y a quelques années un système de petits fascicules. Ceux qui ont fait leur baptême récemment ont vu le premier de ces fascicules, l'étape zéro, se préparer au baptême. Alors, la base, c'est Jésus, on est d'accord? Quand quelqu'un se baptise, il s'attache à Jésus. Il ne s'attache pas à notre église ici. Quand vous vous baptisez ici, vous n'êtes pas membre de l'église automatique. Certaines églises pratiquent ça, nous avons choisi de ne pas faire comme ça. Parce que nous croyons que l'attachement à Christ, membre du corps de Christ, c'est quelque chose qui doit être sans condition, sans contrepartie. Quand on baptise quelqu'un, il se fait baptiser là, on ne lui dit pas « on te baptise, mais du coup tu es membre de chez nous hein. ». Non, non, on ne fait pas ça. On le baptise et après il choisit. S'il souhaite rester là, on est content. Hein, on ne lui dit pas « va ailleurs hein. ». Mais s'il pense et si le Seigneur le conduit à aller ailleurs, c'est très bien, on est content aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le premier, je le disais, le fondement, c'est Jésus. Le deuxième, la deuxième étape qu'on propose, si vous voulez continuer à suivre notre accompagnement qui est organisé dans l'Église, c'est l'étape 1, découvrir la famille de Dieu. Certains dans l'Église ont fait ces étapes, d'autres pas, c'est pas grave. Ces derniers temps, on les a moins mis en avant parce qu'on a fait des programmes avec le fait d'accompagner dans l'exercice du don prophétique, le fait de travailler les relations avec le livre qu'on a fait en campagne l'année passée. Mais je vous rappelle ces outils qu'on a dans l'Église parce que je veux que vous puissiez en profiter ou en faire profiter d'autres. Parce qu'on n'a pas l'exclusivité du fait de les partager. Si vous avez dans votre groupe de maison envie de partager les étapes-là, vous pouvez le faire. Donc la première étape, après l'étape zéro, c'est la famille de Dieu, être membre de la famille de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? L'étape 2, c'est la maturité, les disciplines de la foi, donc prière, lecture de la Bible. Donc c'est un fascicule où dedans on vous apprend à... d'après ce que la Bible dit, comment prier, comment lire la parole, comment jeûner, comment être généreux, il y a 5 disciplines. Et puis, l'étape 3, c'est la découverte de vos dons. Le Seigneur vous appelle à servir, il a mis en vous des talents, des dons. Et bien, dans cette étape-là, on vous aide à découvrir, à réfléchir sur quels sont vos dons. Et puis, l'étape 4, qui a été rajoutée, que je viens de finir de relire et de corriger, c'est quelle est ta mission, quel est ton appel? Et je vous encourage, si vous n'avez pas fait ces étapes, si vous en avez fait quelques-unes et pas toutes, à venir me dire, j'aimerais faire la suivante, j'en suis à celle-là. Vous êtes obligé de rien, c'est un moyen comme un autre de grandir dans la foi. Vous pouvez faire sans ça, ce n'est pas une obligation, mais c'est un service qu'on vous rend. Quand on veut grandir de manière équilibrée, on a besoin d'être accompagné par des gens qui nous connaissent et qui puissent nous parler dans notre vie. Mais ils ne peuvent le faire que si vous leur faisiez confiance. Ça dépend de vous. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas des responsables, ça ne dépend pas des autres, ça dépend de vous. Et tantôt vous serez accompagné par l'un, tantôt par l'autre. Ce qui compte, c'est chaque fois que vous soyez allé vers l'un ou l'autre parce que vous avez eu à cœur de le faire, parce que vous avez trouvé en Christ une confirmation. Tiens, tu as besoin de ça, va voir un tel. Et moi, je vous encourage à être disponible pour les autres. Parce que parfois, des gens viendront vers vous parce que le Seigneur leur a dit à eux, va vers ton frère, il va t'aider à grandir. Donc, soyez disponible. Restez disponible et ne vous laissez pas piéger par le développement personnel. Ce n'est pas de vous dont il s'agit, c'est de l'Église, du corps de Christ. Quand vous servez Dieu, quand vous cherchez à grandir, vous faites grandir le corps de Christ. Vous ne faites pas grandir juste vous. Je vous donne juste une image pour récapituler ce qu'on a dit aujourd'hui. La prière, la parole, des hommes envoyés par Dieu, les épreuves, les exercices. Et je vous rappelle que c'est vous qui devez chercher à être nourri. C'est vous. Seigneur Jésus, nous voulons grandir. Nous voulons grandir de manière équilibrée. Nous ne voulons pas céder à la tentation et à la séduction des modes, mais nous voulons adopter une vie de foi, confiante que c'est toi qui nous fais grandir et que pour ce faire, tu as mis autour de nous ta parole, des temps de prière, de dialogue avec toi, ton esprit. Tu as mis des épreuves, des exercices au quotidien. Tu as mis des frères et sœurs. Et Seigneur, nous savons qu'au travers de toutes ces choses, tu nous fais grandir. Et nous sommes reconnaissants. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Et nous voulons te prier. Aide-nous à être une église qui grandit en nombre, mais aussi en qualité, en bonté, en amour. Merci pour tous ceux que tu ajoutes à ton église. Bénis-les et aide-nous à être tes serviteurs, à produire du bon fruit. Merci Jésus. Amen.